Bienvenue dans Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin au micro, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel et qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Qu'est-ce que la littérature indonésienne? De quoi est-elle faite? De quoi parle-t-elle? Quels sont ses auteurs? Nous la connaissons si peu ou pas du tout. D'où le grand intérêt de la lecture organisée par le Musée Guimet le 28 avril dernier, et Art District vous fait revivre dans cette émission, en écoutant des extraits du texte « Confidence de Pariem, l'univers d'une femme de Java » de l'auteur indonésien Linus Suryadi, lu par les deux comédiennes Julianne Roth et Jennifer Decker. J'ai aussi rencontré Étienne Naveau, professeur de langue et littérature indonésienne à l'INALCO, qui nous plonge dans le monde littéraire lointain et méconnu de l'Indonésie.
Est-ce cela qu'on nomme le karma naturel ? Plus nombreux sont les progrès qu'on réalise, plus nombreux sont les fléaux qui se produisent, plus nombreux sont les cœurs cupides, plus se manifestent les calamités. Ainsi parle la nature aux humains, jaugeant toute forme d'aptitude.
La vie, je la ressens, je la médite. Mais elle n'a pas besoin qu'on la ressente, pas besoin qu'on la médite. Du début à la fin, elle coule, la vie. Pareil à la rivière Vinanga, pareil à la rivière Kodé, au milieu de la ville. Pareil à la rivière Gajavong. Et c'est ainsi que coulent nos vies. Et c'est ainsi que coule la vie. Et qu'il en est de même pour moi. Je suis pareil à la rivière Vinanga, pareil à la rivière Kodé, au milieu de la ville. Pareil à la rivière Gajavong. De ma naissance, aujourd'hui, je coule, moi aussi.
Oui, oui. Pariem, c'est moi. Iem. Mon nom de tous les jours. Ainsi ai-je poussé, plantureuse. Mon corps s'est épanoui selon les vœux de mon père. Mon corps s'est épanoui selon son instinct naturel. Ainsi ai-je grandi à tel point que les garçons de Yogiya me narguent et causent de moi. Mes formes sont pleines, mes formes sont fermes. Mais peu importe après tout, je m'en fais pas, tu sais, je consens. Volontiers.
Oui, oui, Pariem, c'est moi. Quant à mon credo, c'est la mystique javanaise. Mais sur ma carte d'identité, Monsieur le maire a écrit que je suis de religion catholique. Bien sûr, j'ai fréquenté l'école primaire Canisius à Vanasari Gunung Kidul. Mais tout comme je n'ai pas terminé mes classes, mes racines religieuses ne sont pas solides. Bien sûr, j'ai été baptisée par un prêtre hollandais. Cheveux châtains, corps dégingandé, Van de Mouten qu'il s'appelait. Alors, en clair, je le dis sans détour, mon credo, c'est le catholicisme mystique, alias catholicisme javanisant. Marie-Madeleine, c'est mon nom de baptême. Marie, Madeleine, Pariem, au complet. Iem, mon nom de tous les jours, de Vanasari Gunung Kidul.
Bonjour Étienne Naveau, vous êtes professeur et maître de conférences en langue, littérature et civilisation indonésienne à l'INALCO. Alors aujourd'hui, on est au musée Guimet, nous venons d'assister à une lecture faite par deux comédiennes. Elles ont lu je ne sais pas si on peut dire un roman ou bien un poème, vous allez nous l'expliquer après, qui s'appelle « Confidence de Pariem, l'univers d'une femme de Java ». Donc c'est un texte écrit par l'Indonésien Linus Suryadi et qui est paru en 1981. Alors Étienne Naveau, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà de manière assez simple ce livre et cet auteur, qui est-il ?
Alors c'est un livre qui est... qui est d'une certaine manière un peu bilingue, parce que les Indonésiens sont généralement bilingues, donc sa langue maternelle est le javanais, mais il écrit en indonésien. L'originalité de son texte, c'est que cet indonésien est truffé de javanais, si bien qu'il y a un lexique d'une trentaine de pages, javanais-indonésien.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le javanais n'est pas l'indonésien. C'est quoi la différence ?
Alors, ce sont des langues vraiment très, très, très différentes, beaucoup plus différentes que le français et l'italien,
par
exemple.
Sont parlés,
oui, oui. Les deux sont parlés et écrits. Alors, le javanais doit s'écrire encore en alphabet devanagari, en alphabet indien. Mais on commence à oublier un peu, on tente à oublier l'alphabet indien.
Alors,
les caractères indiens, pardon.
Alors sur ce texte, voilà, le traducteur s'appelle Louis Edmond Dussault. Vous êtes également traducteur de textes indonésiens. Est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs en France de textes indonésiens?
Alors, malheureusement, il n'y a pas assez de traducteurs, mais il n'y a pas non plus beaucoup de demandes des éditeurs.
C'est-à-dire qu'il y a peu de textes indonésiens qui sont finalement traduits en France.
En français,
et d'ailleurs, la littérature indonésienne est mal connue en France.
Oui, parce qu'en fait, les éditeurs, ce n'est pas pour les critiquer, mais sont un peu timides parce que c'est un métier à la fois artistique, mais il faut aussi penser aux considérations commerciales. Et donc, il y a toujours une inquiétude à l'idée de publier un texte indonésien parce qu'il n'y a pas de communauté relais. Quoi. C'est pas comme le vietnamien ou... Donc il y a peut-être une inquiétude de la part des éditeurs. Du coup, il y a peu de demandes. Donc, par exemple, Pramudianand Thakur avait beaucoup intéressé les éditeurs parce qu'ils espéraient qu'il obtienne le prix Nobel. Bon, donc ça ne s'est pas réalisé. Mais, alors, Eka Kurniawan est très connu parce que je crois qu'il est déjà traduit dans une trentaine de langues. Et du coup, Sabine Vespizer, qui a pu le lire en anglais, du coup, a été intéressée. Et puis, comme c'est quelqu'un de très sérieux, donc elle a demandé à un traducteur de l'indonésien, que ce soit traduit directement de l'indonésien.
Donc, il y aurait encore des efforts à faire pour traduire plus de textes indonésiens, puisque la littérature indonésienne, vous allez nous en parler, elle est assez riche, finalement.
Oui, elle est intéressante. Et puis parmi les étudiants, il y aurait, je pense qu'on trouverait quand même des personnes capables de traduire. Ce qui manque pour le moment, c'est la demande éditoriale et peut-être aussi le public. Enfin, l'Indonésie est peut-être mal connue, enfin, connue à travers des clichés, enfin, Bali, le plus grand pays musulman du monde. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu au-delà de ces clichés.
Alors justement, à travers ce livre qui était le thème de la lecture aujourd'hui, « Confidence de Pariem, l'univers d'une femme de Java », là on rentre dans l'univers de la culture indonésienne. Qu'est-ce que nous raconte ce livre? Déjà, à quelle époque l'histoire se situe?
Alors, ça se situe à l'époque de Suharto, c'est-à-dire dans les années 70, entre 1966 et 1998. Comme le roman est publié en 1981, ça doit être dans les années 70 que ça se situe, c'est-à-dire une période de décollage économique, une période d'essor. Qu'on a appelé l'ordre nouveau, tout à fait. Alors, c'est Suharto qui l'avait appelé l'ordre nouveau, par opposition à ce qu'il appelait l'ordre ancien. Et l'ordre ancien, c'est la période de Sukarno, c'est-à-dire de 1945 à 1965. Et Suharto reprochait à Sukarno, entre 1959 et 1965, d'avoir gouverné avec l'appui des communistes. Mm-hmm. Puisque le régime Suharto, qui était le régime de l'ordre nouveau, qui était soutenu par les Américains, puisque certains prétendaient que la CIA avait participé au coup d'état militaire du général Suharto. Eh bien, ce régime s'est ouvert aux capitaux étrangers.
Enfin,
oui,
pour,
oui, et c'est un régime.
Pour éradiquer les communistes.
En fait. Voilà, parce qu'en fait, les Américains, en 1965, redoutaient que l'Indonésie passe au bloc de l'Est. Mm-hmm. Et donc, il y a une hypothèse qui est d'ailleurs celle des chercheurs américains, selon laquelle ce serait la CIA, les Américains qui auraient participé, enfin qui auraient aidé à l'installation au pouvoir du général Suharto.
Alors, on sait que la littérature reflète évidemment la culture, l'identité d'un peuple. Alors ici, dans ce texte en particulier, « Confidence de Paris M, l'univers d'une femme de Java », on n'est pas du tout sur les questions politiques. Pourtant, vous avez rappelé dans votre conférence qu'effectivement, les questions politiques, quand même, en Indonésie, les questions de religion sont très présentes dans la vie quotidienne de tout Indonésien. Est-ce qu'il y a une littérature politique engagée indonésienne
aujourd'hui? Oui, oui, oui. Alors, en fait, quelqu'un comme Ayu Utami, qui est une auteure plutôt considérée comme féministe, plutôt une auteure de gauche, évoque beaucoup les sujets politiques, à la fois les sujets sociétaux et les sujets sociaux et les sujets politiques, notamment la montée en puissance de l'islam politique. Bon, elle a beaucoup écrit aussi contre l'ordre nouveau, puisqu'elle commence à publier à la fin de l'ordre nouveau. Mais il y a aussi une littérature politique qui est celle des islamistes aussi. Il y a toute une littérature. Donc aujourd'hui,
c'est un danger, ça.
Alors, ça existe, il y a un succès populaire. Par exemple, il y a un auteur qui a beaucoup de succès, qui publie des romans qui sont une sorte de mélange de romans sentimentaux et de sermons musulmans. Donc, c'est une sorte de
littérature de propagande.
Et, oui, alors, c'est l'impression que ça me fait, et il a beaucoup de succès. Mais quelqu'un comme Ayu Utami, bon, qui est absolument opposée à ce type de littérature, qui est une féministe, elle a aussi du succès. Enfin, donc, je trouve que, par exemple, quelqu'un comme Eka Kurniawan est intéressant parce que il y a une couleur locale dans ce qu'il écrit, et puis il aborde, mais sur le mode de l'humour, les grands problèmes politiques que l'Indonésie a pu traverser dans son histoire. Il évoque les grands conflits, notamment l'extermination des communistes à l'époque du régime Suharto.
Et puis la religion. Qu'est-ce que c'est, la religion? Cette question résonne dans ma conscience. Elle prend plaisir à me chatouiller l'âme et même à me la grignoter. Tant qu'elle n'est posée qu'en moi-même, elle m'embrouille la pensée, me trouble les sens, me gonfle les yeux et m'échauffe les oreilles. Mais quand elle est posée au monde extérieur, elle provoque des affrontements sans fin. Au nom de Dieu, en passant par la religion, tout peut se changer en enfer. La religion et Dieu deviennent des appuis pour les intrigues et les avocasseries. Appétit, émotions et sentiments personnels deviennent licites au nom de Dieu. Des guerres sont ainsi engendrées, des querelles à coups de griffes, à coups de griffes. Pour une chose inconvenante, les gens mettent leur vie en jeu. Où est la foi? Où sont les interdits divins quand l'âme ne trouve plus de lieu sûr? Les gens sont pareils à des meutes de chiens féroces qui se disputent des carcasses vides en se couvrant d'innombrables plaies.
Au ciel, le Seigneur Allah ne demande pas « Quelle était ta religion sur terre ?» Mais il demande « Qu'as-tu fait sur la terre ?» Dis donc, je parle comme si je m'étais baladée du côté des cieux pour les visiter. Alors, la religion est-elle un dogme qui serait des chaînes pour l'âme humaine? Est-elle semblable à la sangsue qui suce le flux de sang rouge sur la cuisse d'une femme? Au parasite du manguier qui absorbe les essences nourricières? Au ver solitaire qui, de nos gosiers, draine l'élixir de vie? La religion est-elle donc un opium vital qui fait un squelette de chacun de nous? Est-elle semblable au pétale du datura dont une seule bouffée rend ivre? aux volutes de la fumée du chanvre qui nous intoxique, aux cigarettes, aux clous de girofle qui nous donnent bien-être et jouissance. Mais au ciel, le Seigneur Allah ne demande pas « Quelle est ta religion sur terre ?» Mais il demande « Qu'as-tu fait sur la terre ?» Dans la brume obscure de mes sentiments, dans le tumulte de mes pensées confuses et dans l'émoi de mon être égaré, je suis échouée dans le vide et la vie redevient soumission.
Alors si on revient au texte Confidence de Pariem, en fait là on est plus dans la sphère intime. Qu'est-ce que nous apprend finalement ce texte sur la vie quotidienne, la sphère intime, les états d'âme, les sentiments d'une femme notamment dans ce texte dans les années 70.
Alors, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le sous-titre, donc le titre, c'est Confidence, et le sous-titre, Louis Edmond Dussault a choisi pour sous-titre L'univers d'une femme de Java, mais en fait, Dunia Batin Orang Jawa, Dunia Batin Sorong Wanita Jawa, donc en fait, littéralement, c'est le monde intérieur d'une javanaise. Donc, c'est à la fois, effectivement, il a choisi l'univers parce que c'est comme une encyclopédie de la culture javanaise, ce petit roman ou ce poème narratif. Et en même temps, c'est la vie intérieure du personnage. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur fait parler à la première personne cette femme à laquelle, d'une certaine manière, ils s'identifient parce qu'ils ont un point commun. Ils appartiennent à des milieux sociaux plutôt humbles, de javanais, donc de milieux très modestes, milieux ruraux, mais aussi de confession catholique, donc minorité catholique, mais des milieux modestes. Et donc, il y a une proximité entre l'auteur et son personnage de ce point de vue-là.
Alors, ce qui est très beau, c'est que quand on entend ce texte, enfin la traduction qu'on a entendue, on sent tout de suite le rythme, la musicalité. Elle répète son nom de manière très rythmique, vraiment souvent dans le texte. Là aussi, c'est l'identité en tant que javanaise, qu'est-ce que je suis vraiment ?
Oui, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, le nom propre, le thème du nom propre revient comme une sorte de leitmotiv musical, donc ça donne un rythme à ce texte. Et puis, il y a son identité, donc je m'appelle Pariem, elle se situe socialement, je suis servante à Yogyakarta, dans telle famille, je suis de confession catholique, etc. Donc il y a ce thème du nom propre qui revient comme une ritournelle, et la traduction aussi a, je trouve, bien rendu la musicalité du texte, bon, puisqu'il y a parfois des alexandrins, des assonances, c'est vraiment une très belle traduction. Ouais.
Mais Denbagou Saria n'est pas sorti sous prétexte qu'il ne se sentait pas bien. Il n'y a plus que lui et moi à la maison, nous sommes seuls, tous les deux. Plus de doute possible, il est gêné. C'est un vrai timide, quoi. Mais son regard ne ment pas. J'en sais long sur le désir des hommes. Celui qui affleure dans leurs moindres gestes. Bref, il est épris de moi. Tandis que je fais le ménage de sa chambre, il m'attrape soudainement par derrière. Oh Allah ! Je sursaute, mon sang ne fait qu'un tour. Il me tripote tout le corps, les joues, les lèvres. Il embrasse même mes mamelons. Il me palpe les cuisses et me les palpe encore. Mon poil se dresse sur ma nuque. Mes nerfs se raidissent. Mais je m'abandonne, tu sais, je consens volontiers.
Sans même un mot, l'événement a lieu. L'univers tremble de nous porter dans la lumière du soleil matinal. Comme il est pressé et comme il est empoté. Son cœur bat la chamade. Son souffle est déréglé. Dans le bouillonnement de la vie qui bat, il fonce comme une locomotive à vapeur. Moi, je suis à la fois molle et excitée, pareil à la flamme dans le vent. J'ai chaud et froid en même temps. Le temps d'un clin d'œil, je suis toute en sueur. Mouillée de l'eau, de la vie. Oh, pas encore. Oh, j'ai envie de rugir. Oh, comme je suis troublée, totalement troublée. Comme la fierté s'insinue en moi,
Pariem, Marie, Madeleine Pariem au complet, Iem, mon nom de tous les jours, de Vanasari, Gununkidul, je suis la bonne de Endara, Kenjeng, Kakrasentana, de la maison Surya Mentaraman, de Engayo Gakarta, je suis en train de dépuceler son fils aîné, Radun Bagus Arya Amaja, c'est son nom, de lui apprendre les jeux de l'amour.
Et d'ailleurs, comme dans un morceau de musique, un peu, on a une sorte de montée en puissance. J'ai trouvé en tout cas comme une vague en fait de cette histoire. On commence avec un décor où on retrouve la nature, l'idée voilà très disons de la présence de la nature dans la culture javanaise et petit à petit on rentre vraiment dans la maison, on rentre dans son esprit et c'est une histoire d'amour, une passion même amoureuse qui commence. Et qui va frénétiquement, finalement, nous emporter aussi avec elle.
Oui, et en même temps, c'est toujours assez énigmatique parce que il y a une sorte de dualité, puisqu'elle accepte que dans l'intimité, elle est l'amante du fils de la famille, et donc elle insiste sur cette unité. Donc nous sommes.
Donc elle est servante, hein, faut rappeler.
Voilà, elle est la servante.
Dans une famille de notables.
Voilà. Mais comme ils ont une liaison, au moment de leurs ébats, bon, elle a le sentiment qu'ils sont à égalité, qu'ils sont vraiment unis.
C'est une sorte de liberté qu'elle exprime à ce moment-là. Or, le texte nous rappelle bien qu'il y a la condition sociale qui, malgré tout, quand les ébats s'arrêtent,
voilà, exactement.
C'est le retour à cette condition sociale quand même.
Voilà, et donc ça fait penser un peu à ce que disait Dumont, Louis Dumont, dans Homo Hierarchicus, quand il disait, au niveau métaphysique, au niveau de l'absolu, il y a une égalité, mais la hiérarchie sociale demeure à un autre niveau. Et donc là, la servante, la femme servante, elle est au même niveau que son amant, parce que cette union charnelle, en fait, c'est aussi une sorte d'union mystique, c'est l'union de la servante et du maître. Et ça, c'est un thème qui revient aussi comme un leitmotiv de la mystique javanaise. Alors, c'est aussi un thème du soufisme, ça, de l'union du serviteur et du maître, en fait. L'union mystique, en fait.
Et vous expliquez aussi, vous avez beaucoup axé le propos sur la question du péché, qu'elle s'affranchit du péché, enfin qu'elle va à l'inverse de cette notion de péché.
Oui, parce qu'en fait, l'extrait qu'on...
En tant que catholique,
oui.
C'est quand même une question intéressante.
Oui, en fait, ce qui m'avait intéressé du point de vue philosophique, c'est qu'on... L'héroïne n'a pas le sens du péché, c'est-à-dire elle n'a pas l'impression d'avoir transgressé une loi. Or, du point de vue musulman, voire catholique, une relation extra-conjugale, c'est considéré un peu comme un péché. Pour l'islam, d'ailleurs, pour certains musulmans, c'est considéré comme de l'adultère.
Hein, même surtout pour la femme.
Oui, oui, peut-être. Mais bon, effectivement, et elle n'éprouve aucune culpabilité, puisqu'elle dit le désir de son amant s'est exprimé naturellement, et puis elle a fait son devoir, qui était de se soumettre en tant que servante à ce désir. Enfin, donc, elle parle plutôt d'une sorte de loi du karma, d'un enchaînement de phénomènes, un enchaînement de causes et d'effets, mais elle n'a pas... le sentiment de s'être opposée à une loi divine. Mais réciproquement, elle ne revendique pas une liberté sexuelle. Donc elle n'est ni dans la problématique, on pourrait dire, puritaine du péché, de l'obéissance à la loi divine, ni dans son contraire, qui serait une problématique libertine, de dire on va affirmer le désir contre la loi. Ce n'est pas ça, parce qu'à travers cette sexualité symbolise l'union mystique, mais plutôt dans un cadre qui serait plutôt moniste et non pas monothéiste.
Et alors ce roman, comment il a été accueilli en Indonésie?
Alors, je pense pas que... Alors, il y a eu différents types de réceptions. Bon, d'abord, ça a été accueilli comme une sorte de de météorite, hein, puisque c'est quand même la première fois qu'on a un roman qui mélangeait l'indonésien et le javanais. Et donc qui devait être accompagné, je vous dis, d'un glossaire. Alors ça ne se voit pas dans la traduction française. Et c'est aussi pour ça qu'il a fallu attendre Louis-Edmond Dussault. Enfin, tous les passionnés de littérature indonésienne s'intéressaient beaucoup à ce texte, mais c'est le premier qui a eu le courage de le traduire, en fait. Parce que c'est quand même pas si évident. Comment traduire dans une seule langue ce bilinguisme?
Et ensuite, il y a eu d'autres romans écrits comme ça, dans les deux langues. C'est vraiment roman atypique.
Roman atypique, voilà, c'est exactement. Et alors, certains n'ont pas compris, y compris certains critiques littéraires, qui ont trouvé que c'était vulgaire. Donc, n'ont pas compris l'érotisme. On prit ce texte pour un roman érotique, vous voyez. Ou bien, certains commentateurs ont prétendu que Pariyam était une sorte de prostituée. Enfin, donc, n'ont pas compris qu'il y avait un arrière-plan mystique, mais effectivement, qui fait plutôt penser à une tradition tantrique. Je pense une ancienne tradition pré-chrétienne et pré-islamique.
Den Bagus Arya Atmaja a un ami, un voisin avec qui il discute. Il s'entête à débattre du péché. Depuis des années et des années, il balbutie sur le péché, il réfléchit sur le péché, même qu'il étudie dans le département de la purification du péché. Oh, Allah Seigneur, j'implore ton pardon. Il y a maintenant des facultés de sciences du péché. On peut y obtenir un diplôme pour travailler comme spécialiste de la purification des péchés. Peut-on réussir à se charger de tous les péchés du monde? À supposer que le péché existe, car le divin maître de l'univers a bien sûr créé ce monde comme milieu de fréquentation. Il y a quelques mois, le gentilhomme en question, sage et réservé, étudiant à la faculté des sciences du péché, le voisin proche de la maison, au prodige. Il est devenu cinglé.
Alors, Étienne Lavaux, évidemment, pour découvrir la littérature indonésienne ponctuée de javanais, il faut donc lire ce beau texte « Confidence de Pariyam, l'univers d'une femme de Java » de l'auteur indonésien Linus Suryadi, donc traduit par Louis-Edmond Dussault en français. Est-ce que vous avez d'autres conseils de lecture de textes indonésiens pour un public qui serait novice en la matière?
D'accord. Alors, je trouve que c'est une bonne entrée en matière que lire ce texte traduit par Louis-Edmond Dussault. Alors, je précise que Louis-Edmond Dussault est canadien, alors ce qui est peut-être ça aussi qui fait qu'il a ce français si beau, enfin peut-être que ça jouait dans la réussite de cette traduction. Alors, on peut aussi penser à la traduction de Saman, pour rester dans le contemporain, par Elisabeth Inandiak, donc Saman Dayu Utami, qui est un roman écrit par cette auteure féministe, Ayu Utami, donc qui est une écrivaine à succès. Alors, ça a été traduit il y a peu de temps, et c'est aussi une très bonne traduction. Il y a plus anciennement un recueil de chez Gallimard, Connaissance de l'Orient, des nouvelles de Pram, sous le titre « La vie n'est pas une foire nocturne », donc il y a des traductions de Denis Lombard et Henri Chamberloire de quelques nouvelles de Pram. Bon, on trouve aussi d'autres textes de Pramudyanantatur en français. Puis, personnellement, j'ai traduit récemment Eka Kurniawan. Mais malheureusement, il n'y a pas... pour nous en tenir au roman
Ou au poème, enfin, s'il y a vraiment des poèmes très connus, mais sur des grands classiques, en fait, qui seraient intéressants à découvrir.
Alors, c'est vrai que pour la poésie, on a de beaux outils. On a l'anthologie qui est traduite par Georges Boisset, qui sur le titre « La terre et l'eau ». Et alors, c'est bilingue aussi. C'est ça, ça permet d'entendre un peu la musique, parce que en indonésien, l'indonésien n'est pas une langue à ton, et en plus, elle s'écrit en alphabet latin, ce qui fait que avec quelques règles élémentaires, on peut quand même arriver, même sans avoir fait d'indonésien, à entendre un petit peu la musique des originaux. Donc, belle édition bilingue. Alors, j'ai publié aussi avec mes étudiants un florilège de sonnets, indonésiens, donc sous le titre Florilège, également d'édition bilingue. Et puis, il y a eu une édition bilingue de poèmes de Sitor Sitomorang, le grand poète indonésien, fait par des étudiants de l'INALCO sous la direction de Chamberloire. Ça s'appelle Paris la nuit. Alors je ne sais pas si c'est épuisé, mais et puis tout récemment, oui, je vais faire ma propre publicité. Donc Datcheb Zamzam Nour, donc aux presses de la Sorbonne Nouvelle, Ailleurs des mots, donc il y a une anthologie bilingue de poèmes. C'est plus des poèmes mystiques soufis, mais également des poèmes d'amour et des poèmes brefs.
Alors voilà, merci beaucoup Étienne Navo. Comme ça, on a plein de conseils pour aller découvrir la littérature indonésienne, la culture javanaise également, grâce donc à ce beau texte donc de l'indonésien Linus Suryadi. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci donc de nous avoir fait partager votre expertise sur la littérature indonésienne. Je rappelle que vous êtes donc maître de conférence à l'INALCO. Merci Étienne Navo.
Merci beaucoup.
Je possède la science du bien-être. Un art de vivre qu'on délaisse. Un art de vivre qu'on juge ranci, comme le riz du déjeuner de la veille. Le bien-être, c'est déconsidéré, c'est vu comme démodé par les aventuriers de l'être intérieur qui vont jeter l'ancre outre-mer, devenus étrangers à leur terre, ayant perdu proximité et intimité.
Tard dans la nuit, la ville est silencieuse, la lumière de la lune éclaire la terre. Je me repose un moment, je bois un café qui me réchauffe le corps. En reprisant mon corsage, je laisse errer mes pensées.
Comment un javanais comme toi peut-il m'interroger sur le péché? Ah oui, peut-être as-tu oublié. Tu es javanais, mais tu ne javanises plus, comme le dit ma grand-mère. Tu as oublié les bonnes coutumes. Je te demande de comprendre une chose, c'est incontournable, non négociable. Un javanais authentique n'a pas besoin qu'on l'interroge sur la question du péché. Je ne sais pas ce qu'il répondrait, mais essaie un peu de l'humilier au milieu d'un groupe et tu te retrouves en danger.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.